histoire. Donc sur la page numérotée 0, je vous ai mis un peu la table des matières et des petits dossiers que vous avez eu au fil des cours. La table des matières mise à jour. Donc je vous avais donné une première feuille numérotée 0, mais celle-ci la remplace, si vous voulez. Parce que vous n'étiez pas sûr de où on pouvait arriver, mais voilà. Donc vous avez le mot d'introduction que j'avais donné, et puis une table des matières de ce qu'on a vu. Alors, vous vous souvenez qu'on a eu deux leçons, une mise d'introduction générale, avec des remarques sur la manière stylistique et de composition, et de contenu aussi, un peu plus entier, une première approche générale. Et puis, une introduction à l'étude des psaumes 1 et 2. Je vous ai donné une feuille avec les usages significatifs du tout premier mot du psautier, heureux. Heureux l'homme qui ne va pas au conseil des méchants, etc., une béatitude. Et puis, on a vu ce psaume 1, dit parfois des deux voix, l'homme juste, planté comme un arbre planté près d'un cours d'eau, au contraire, le chemin des impies qui va se perdant. Puis le psaume 2, qui élargit la perspective du choix à poser entre accueillir le Messie ou au contraire lui résister. Pourquoi ces nations en tumulte, etc., peinent à accueillir le Messie. Mais le psaume 2 s'est terminé comme le psaume 1 commençait, à savoir par une béatitude. Puis on a vu le psaume 8, au Seigneur notre Dieu qui est le grand au monde, avec au cœur la grandeur de l'homme. C'est l'esprit. Qu'est-ce que l'homme pense à lui et pourtant tu un peu moins d'aucun Dieu, etc. On a vu la fortune de ce psaume dans le Nouveau Testament. Puis, je dis quelques mots pour l'approche générale des psaumes de louange et des psaumes de louange qui se retrouvent groupés vers la fin du psautier. Psaume 145 à 150. Ce qui a donné lieu alors à une réflexion sur l'encadrement du psautier, chemin parcouru entre le début incisif qui stigmatise les impies, ceux qui sont opposés au Messie, et au contraire l'aboutissement du projet de Dieu tel que célébré dans la finale qui est marquée par la louange. Puis après le confinement, au moment où nous avons repris, un peu de décalage sur le calendrier prévu, mais c'était le moment où nous étions dans la lumière de Pâques, et donc on a pris le psaume 110, qui est prié le dimanche, oracle du Seigneur, mon Seigneur siège à ma droite, etc., qui célèbre le Seigneur victorieux comme Messie royal et sacerdotal. Et puis un autre psaume de tonalité positive, le psaume « Le Seigneur est mon berger ». On a vu là, aussi la belle portée dans divers usages liturgiques. Puis après ces deux psaumes plus joyeux, on a pris des psaumes plus intérieurs, voire douloureux. J'ai fait une introduction générale au psaume de miséricorde, puis on en a vu deux qui implorent le pardon du Seigneur, le fameux psaume de David, « Pitié pour moi, Seigneur, à ta bonté, à ton entrée, s'efface mon péché, le miséréré », et le psaume « Des profondeurs, des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur ». J'ai pris aussi à l'occasion de funérailles. Et puis deux psaumes, les psaumes 22 et 69, qui sont importants dans le récit de la passion du Seigneur. Ils interviennent par des allusions et qui reconnaissent dans le Christ souffrant sa passion et celui qui a pu prier et remplir ces psaumes de sa présence. Puis la fois passée, on a vu un psaume. Liturgie pour la fête des tentes, rendez grâce au Seigneur car il est bon, le psaume 118, avec l'importance, si vous voulez, des versets qui ont pu être appliqués au Christ, la pierre rejetée des bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, ou encore l'expression béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, qui a été l'acclamation lors de l'entrée à Jérusalem, tout cela vient du psaume 118. Un psaume sur lequel je vais revenir à l'instant. Parce que la fois passée, faute de temps, je l'avais sauté, donc psaume 105, on le reprendra. le psaume invitatoire compris le matin, venez crions de joie pour le Seigneur. Aujourd'hui, si vous écoutez sa voix, on a vu la portée d'application de cet aujourd'hui du psaume, dans l'aujourd'hui de David, mais dans l'aujourd'hui de chacun de nos jours. Et puis, j'avais à la fin esquissé un aspect du psaume 139 que je vous propose de reprendre. Donc on va reprendre deux psaumes, dont vous avez eu les feuilles et le commentaire. Le psaume 139, « Seigneur, toi tu me sondes et me connais », et puis on lira le psaume 105. Alors, tout le monde a eu les feuilles de ces deux psaumes, donc le psaume 139. Son commentaire est à la page numérotée 36, que vous avez reçue la fois passée. Je vous invite à reprendre cette page 36, et puis le texte du psaume 139. Seigneur, tu me sondes et me connais, que je m'assoie, que je me lève, sous sa forme encadrée. Ça va? Donc, le texte du psaume 138, encadré, et puis le commentaire. En fait, c'est un psaume dont on a entendu un extrait dans la liturgie d'aujourd'hui. Pour la nativité de Saint Jean-Baptiste, c'était des extraits de ce psaume. Tu me sondes, tu me connais, qui est un langage aussi dans la première lecture d'aujourd'hui, encore qui était hérité d'Isaïe. C'est toi qui me connais dès les entrailles de ma mère, dès le moment de ma conception. Et donc certains éléments ont été repris pour la nativité de Jean-Baptiste. La situation et le genre du psaume, c'est un psaume d'instruction didactique. On va voir en quel sens il fait parcourir un certain chemin, de type sapientiel, et en même temps il fait écho à l'expérience des prophètes. Je vous ai dit, c'est Isaïe qui dit aussi, qui contemple l'origine de sa vocation, comme plus tard Jean-Baptiste pourra le faire, et bien dans le choix de Dieu dès le sein de sa mère. Ce psaume exprime la condition humaine sous le regard de Dieu omniscient, c'est-à-dire qui sait tout. Omniprésent, il est partout, présent en nous, et dont la parole nous est immanente, c'est le verset 4. Car, pas de mot sur ma langue, voici Seigneur, tu le sais tout. Il n'y a aucun mot que tu ne saches, autrement dit. Donc, notre parole même est présente au savoir de Dieu. Des aramaïsmes, c'est-à-dire des emprunts, enfin, des tournures de type de la langue araméenne, donc, qui était la langue parlée à l'époque de Jésus, des aramaïsmes, et des parentés avec le livre de Job et les passages de Siracide, le font dater d'après l'exil. Donc c'est un psaume qui a été composé après le retour d'exil. Pourtant, son attribution à David en laisse résonner la fibre personnelle d'une adresse intime à Dieu. Vous voyez qu'il est mis en titre au maître de chant, Cantique de David. Alors il y a certains psaumes dont on voit bien qu'ils sont reliés directement à l'action poétique et religieuse de David. Ici, il lui est attribué sans que ce soit de lui, s'il est post-exilique. Alors ce phénomène d'attribuer à un auteur important, David, ou bien des passages de sagesse qu'on attribue à Salomon, certains remontent sans doute à lui-même, mais d'autres lui sont attribués après coup, ce procédé qu'on appelle dans la technique la pseudépigraphie, c'est-à-dire écrire sous un pseudonyme, un nom autre, donc l'auteur du psaume, eh bien, se range sous l'autorité de David. Alors ce procédé aujourd'hui nous surprend, pour nous modernes. On se dit, c'est une espèce de plagiat ou de faussaire en disant que c'est de David alors que c'est de lui. Mais au contraire, dans la Bible, ce procédé n'a rien de... C'est au contraire se ranger, avoir la modestie de se ranger sous l'autorité d'un grand auteur, en ayant la conscience que, aidé par le Seigneur, on lui est fidèle. C'est comme ça que même pour le Nouveau Testament, il y a certains écrits, la deuxième lettre de Pierre, des lettres de Paul, dont on se demande si c'est vraiment de Paul lui-même ou d'un disciple, mais qui se revendiquent de Paul, se met sous la plume de Paul, non pas pour justement faire œuvre de fossé, mais pour honorer la mémoire de Paul en disant « j'entends bien être fidèle ». Ici, cantique de David, c'est une manière de dire « ce psaume, même s'il n'est pas de David lui-même, entend bien être fidèle à l'esprit dans lequel David a composé de merveilleux psaumes ». Voilà, donc c'est ça pour expliquer un petit peu ce phénomène. Il est daté d'après l'exil, mais en même temps, il ose s'attribuer à David de manière légitime pour une mentalité biblique. Le parcours psalmique, popularisé de nos jours en chrétienté francophone par le chant « Ta main me conduit, ta droite me saisit », qui reprend dans ses diverses strophes plusieurs éléments, psaume, eh bien, il invite à entrer dans la confiance et l'abandon à Dieu. Voilà pour le situer. Le vocabulaire, et vous voyez que la graphie utilisée par le père Adermakers, qui a fait ce tableau, eh bien, vise à souligner des termes qu'on peut rapprocher, qui relèvent de registres analogues. On va voir ça en parcourant un peu le psaume. Vous voyez, il y a certains mots au verset 11, 12, 13, qui sont barrés. Il n'avait pas d'autre, je crois, système graphique pour... Il avait épuisé les italiques, les grâces, les petites capitales, et il a dit, ben, donc ils ne sont pas barrés, en réalité c'est une manière de montrer qu'il veut les rapprocher. La ténèbre, le jour, la nuit, la lumière, etc. Il aurait pu trouver un double soulignement, enfin voilà, c'est comme ça que ça a fonctionné du point de vue informatique. Mais pour que vous vous étonniez. Pardon, ces diverses mises en évidence graphiques nous aident à rapprocher certains. Ainsi, on a des mots-clés qui sont, entre autres, le savoir connaître. Par exemple, au verset 1, « Seigneur, tu m'as sondé, tu sais. » Verset 2, « Tu sais mon siéger, mon dressé, quand je m'assois, quand je me lève. » Au verset 4, le mot qui n'est pas encore sur ma langue, mais qui arrive sur ma langue, « Déjà, tu le sais, tout entier. » Merveilleux savoir, verset 6, qui me dépasse. Et puis, au verset 14, c'est intéressant, il y a un savoir qui n'est plus simplement celui de Dieu, mais du psalmiste. Tes œuvres, mon âme le sait fort bien, qu'elles sont merveilleuses. C'est le psalmiste qui dit, moi je sais que le savoir que tu as de moi, eh bien, c'est une chose merveilleuse. Et puis à la fin, encore, ce verbe savoir, sache mon cœur, sache mes soucis. Cette fois-ci, ce n'est plus simplement une affirmation, tu sais, mais une demande. Oui, sache, un souhait. Donc le registre du savoir connaître. Savoir de Dieu, ou savoir de l'homme, comme je l'ai dit, et puis les synonymes sondés, scrutés, qui apparaissent au début et à la fin, discerner, jauger, pénétrer, examiner, et voir donc le... ce que Dieu connaît, pénètre, voit, est fort solide. Donc l'omniscience de Dieu, son savoir total, et sa présence à l'homme, c'est les versets 1 à 12. Et puis, on souligne le fait que cela, c'est dès son origine. Verset 13 et suivant, « Je te rendrai grâce, je fus fait, c'est la mention de sa genèse dans le sein de sa mère. Je ne fus pas occulté quand je fus fait dans le secret, fus brodé dans les profondeurs de la terre, mon embryon, tes yeux le virent. » Donc, il remonte à cette conscience de ce que Dieu le connaît, eh bien, dès le premier moment de sa venue à la vie, de sa conception, autrement dit. Dès son origine, eh bien, l'omniscience de Dieu, sa présence à l'homme dès son origine, font que la proximité du transcendant, c'est-à-dire de ce qui dépasse l'homme, peut inquiéter l'homme farouche. Dans un premier temps, mon Dieu, où que j'aille, où que je me porte, Dieu est là, il me voit. Ça peut m'inquiéter avant de l'émerveiller dans la confiance. L'opposition ténèbres-lumière qu'on rencontre au verset 11 et 12 prépare à l'opposition entre le juste et les ennemis de Dieu. Un passage un peu surprenant dans le déroulement du psaume au verset 19 à 22. Le cadre varie au fil du texte. Dans les versets 6, c'est la vie courante, quand je parle, quand je me déplace, quand je m'assieds, etc. Et bien, dans la vie courante. Et puis le cosmos, au verset 7 à 12, où fuirai-je en état face, si j'escalade les cieux, tu es là, si je descends au Sheol, prendrai-je les ailes de l'aurore, et habiterai-je au bout de la mer, etc. Les réalités de la nature qui nous entoure, et bien Dieu est là, présent à la vie courante, présent où que j'aille dans le cosmos, l'univers. Le corps créé, les versets 13 à 16 déclinent quand même ces réalités, mes reins, le ventre de ma mère, mon os, au verset 15, mon embryon, tes yeux, le pire, cette dénomination de partie de réalité corporelle. Même pour présenter Dieu de manière un peu anthropologique, si vous voulez, Dieu qui voit, qui a des yeux, etc., qui a des oreilles pour entendre. Donc, le corps créé, le combat du juste contre les impies. La réalité corporelle est convoquée au verset 4 à 16. Et pour l'homme, et dans les anthropomorphismes qui visent Dieu, c'est-à-dire une manière de parler de Dieu en termes humains. Dieu est invisible, il n'a pas des oreilles, une langue, des yeux, à notre manière corporelle, mais c'est notre manière d'exprimer comment Dieu nous est présent. La langue, la paume, la face, la main, etc. La composition et le mouvement, entre les versets 1 et 3 et 23-24, qui sont signalés sur le tableau par la lettre A et A', il y a une forme d'inclusion, notamment, il y a des mots qui ne reviennent que là. J'ai mis les mots savoir, c'est surtout le mot sonder, parce que le mot savoir, il n'est pas réservé à ce début et à cette fin. Tandis que le mot sonder, tu m'as sondé au début, et puis à la fin, sous la forme de la demande, verset 23, sonde-moi, là il n'apparaît que là. De même, la thématique du chemin n'apparaît que là, mon marché, mon coucher, tu le jauges, et tous mes chemins, tu en es familier. Et à la fin, ça fait l'objet d'une demande au dernier verset 24. Voici le chemin, le fatal est en moi, et conduis-moi dans le chemin d'éternité. Donc ce sont les deux termes spécifiques à ce début et à sa fin qui forment un peu inclusion. Des signes d'inclusion, mais moyennant une transformation. L'affirmation initiale était inquiète, voire ombrageuse. On prend ombrage de Dieu de nous être si présents. Mais à la fin, elle se fait pleinement acquiescente, elle accepte, et même requérante, elle demande, sonde-moi mon Dieu. À Dieu qui discerne mon intention, c'est de le verset 2, hein, tu sais mon siéger, mon dressé, tu discernes mon intention de loin, eh bien, j'en viens à dire au verset 17, pour moi, quelles sont précieuses tes intentions. Donc, il y a ce rapport, hein, Dieu qui pénètre mes intentions, et puis, à un moment donné, le psalmiste, à un moment donné, se réjouit des intentions de Dieu lui-même. Soit un plan possible du psaume. Donc là, je m'écarte un peu du lettrage A, B, C, D, C', B', qui me semble un peu moins pertinent dans ce cas-ci. Je vais vous proposer des étapes. Versets 1 à 6, la connaissance du psalmiste par Dieu dans son quotidien se conclut sur un émerveillement modeste, mais presque encore un peu écrasé. Verset 6, merveilleux savoir, trop grand pour moi, trop altier, je ne puis y accéder. C'est grand, mais ça me dépasse et ça m'écrase un petit peu. Versets 7 à 18, toute tentative est vaine pour se dérober à la connaissance que Dieu a de moi, en tout lieu, où irai-je, loin de ta face, aux cieux, au Sheol, au bout de la mer, non, je ne t'échappe pas, en tout lieu, et depuis mon origine. Versets 13 à 18. Mais c'est de plus en plus sujet, occasion de reconnaissance émerveillée. Merveilleuse tes œuvres, etc. Ce n'est plus simplement objet d'un peu d'inquiétude, mais on s'en émerveille. Au verset 19 à 22, mais surprise, en effet, c'est tout d'un coup, sur un tout autre registre, il y a là des imprécations contre les hommes de sang qui machinent, des adversaires. Est-ce que ceux qui te haïssent, Seigneur, vous ne haïrez pas, etc. Hein, je les hais, des ennemis, ils deviennent pour moi. Donc il y a là une imprécation contre des adversaires, il y a la mention d'un combat qui intervient de manière un peu surprenante. On devine la situation d'un juste qui prend âprement la défense de Dieu. Dès lors, les deux derniers versets, c'est dès lors chargé de cette rude expérience que la finale s'en remet à Dieu. À sa connaissance, hein, sonde-moi, sache, examine, mais aussi à ça, Dieu, pas simplement celui dont on demande qu'il nous connaisse bien, mais aussi qu'il nous guide. C'est ce que dit le dernier verset. Qu'il nous guide sur le chemin, conduis-moi dans le chemin d'éternité. Pour qu'on puisse choisir, vous vous souvenez du psaume 1, les deux voies, il y a d'un côté le chemin qui risque d'être fatal, et bien, veille à ce que mon chemin ne soit pas fatal, et au contraire, le chemin qui conduit vers l'éternité. Dans le Nouveau Testament et la liturgie, c'est un psaume qui est chanté à l'office du mercredi 4 le soir. Tôt, l'Église l'a relu christologiquement en référence au passage de Saint Jean sur la connaissance du Père, mutuelle du Père et du Fils. C'est-à-dire que le Fils qui dit à son Père, tu me connais en totalité, tout à fait transparent sous ton regard, hein, et qui lui acquiesce pleinement à cette connaissance mutuelle. C'est une manière de relire en perspective christologique ce psaume. Augustin, entre autres, y entend le Christ en forme de serviteur, comme il dit, parler à son Père. Et le passage un peu plus surprenant ou difficile de la victoire sur les ennemis est appliqué au Christ victorieux du mauvais. Donc il l'entend du Christ, notamment au moment où il a vaincu, il est sorti victorieux du combat de la passion. Le grec traduit au verset 18b, je suis ressuscité et je demeure avec toi. Tu vois, voyez que le texte hébraïque dit, j'émerge du sommeil et encore tu es avec moi. Eh bien, le grec a forcé un peu la traduction pour le comprendre, j'émerge du sommeil comme au moment où le Christ ressuscite. Je suis ressuscité et je demeure avec toi. D'où la lecture pascale. De pain, résurrexit est adoucte et consum. Je suis ressuscité et je suis encore avec toi. Dans la Vulgate latine, on trouve à l'introduire. L'arrachement au chemin fatal de la mort conduit le Christ, vivant sur le chemin d'éternité, à visiter les enfers. L'exultet, qu'on chante dans la nuit pascale, évoque les versets 11-12 en traduction latine. La nuit brillera comme le jour. Et la nuit me servira de lumière dans mes délices, au moment où on émerge, hein, l'obscurité où la flamme de l'aurore pascale s'élève. Invitation à nous exposer à la lumière transfiguratrice du Père qui nous sonde et nous conduit à travers son Fils unique, incarné et ressuscité. Je reprends ces mots à Jean Radamantès. Vous savez que le répertoire chanté de Thésée valorise bien le verset 12. La lumière n'est pas ténèbre devant toi, jour, mais la nuit, la lumière, c'est tiré directement de ce verset psalme. Je vous avais lu, je crois, la fois passée, déjà l'introduction et l'horizon du psautier. Voilà, une introduction que je reprends. Dieu sait tout, il voit et prévoit tout, il est partout. Mais alors méditons, non pas avec crainte, mais avec joie et admiration, dans la confiance et l'abandon, ce mystère inépuisable de sa grandeur. Et puis, l'application christologique, il nous apparaîtra plus grand encore dans le cœur du Christ, dépositaire de tous les secrets du Père. C'est aussi à travers son Fils, le Père. Voilà pour ce beau psaume 139. Je disais, je vous invite à reprendre peut-être dans votre dossier de la fois passée, la page 34 de commentaires et le texte du psaume 105. 34. Je le lis d'abord, dans la traduction courante. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, annoncez parmi les peuples ses hauts faits. Chantez, jouez pour lui, redites sans fin ses merveilles. Glorifiez-vous de son nom très saint. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Cherchez le Seigneur et sa puissance, recherchez sans trêve sa face. Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites, de ses prodiges, des jugements qu'il prononça, vous, la race d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisi. Entrée en matière, invitation à louer, et la mention des Juifs comme race d'Abraham amorce le parcours émerveillé de l'histoire d'Israël qu'on va faire. Le Seigneur, verset 7, le Seigneur, c'est lui notre Dieu, ses jugements font loi pour l'univers. Puis on entre dans l'histoire. Il s'est toujours souvenu de son alliance, parole édictée pour 1000 générations, promesse faite à Abraham, chapitre 15 de Genèse, garantie par serment à Isaac, Genèse 26, érigée en loi avec Jacob, son de Jacob, Genèse 28. Alliance éternelle pour Israël, qui est l'autre nom de Jacob aussi. Il a dit, je vous donne le pays de Canaan, ce sera votre part d'héritage. Les promesses faites au père du bâton. En ce temps-là, on pouvait les compter. C'était une poignée d'immigrants. Ils allaient de nation en nation, d'un royaume vers un autre royaume. L'itinérance première, le nomadisme des pères. Mais Dieu ne souffrait pas qu'on les opprime. À cause d'eux, il châtiait des rois. Ne touchez pas à qui m'est consacré. Ne maltraitez pas le prophète. Là, on sent que c'est une manière de désigner les patriarches. Avant même l'époque des grands prophètes, ils ont déjà quelque chose de prophétique. Il appela sur le pays la famine, le privant de toute ressource. À ce moment où la famine s'est vue en Canaan. Mais devant eux, il envoya un homme, Joseph, qui fut vendu comme esclave, un des fils de Jacob. On lui met au pied des entraves, on lui passe des fers au cou. À un moment donné, en Égypte, et en Égypte, il se retrouve dans le cachot, parce que la calomnie de la femme de Potiphar, etc., ben, elle a été mise au cachot. Il souffrait pour la parole du Seigneur, jusqu'au jour où s'accomplit sa prédiction. Il avait eu des songes, quand même, Joseph. Le roi ordonne, le roi, ici ça désigne Pharaon, le roi ordonne qu'il soit relâché. Le maître des peuples, Pharaon, apparaît comme la figure à l'époque souveraine. Le maître des peuples, qu'il soit libéré. Il fait de lui le chef de sa maison, le maître de tous ses biens. Vous vous souvenez que Joseph se retrouve grand intendant du Pharaon. Et c'est lui qui gère la distribution du blé, etc., en période de famine. Pour que des princes lui soient soumis et qu'ils apprennent la sagesse aux anciens. Il continue. Alors Israël entre en Égypte. Parce que Joseph était le premier en Égypte, mais à un moment donné, il est rejoint par ses frères et par son père, Jacob, Israël. Alors Israël entre en Égypte. Jacob, c'est le même, émigre au pays de Canaan. Dieu rend son peuple nombreux et plus puissant que tous ses adversaires. Cela, il les fait se raviser, haïr son peuple et tromper ses serviteurs. Le pharaon s'émeut de ce que les Hébreux deviennent nombreux. Mais il envoie son serviteur Moïse. Là, on est quand même quelques siècles après Abraham déjà. Il envoie son serviteur Moïse avec un homme de son choix, Aaron, pour annoncer des signes prodigieux, des miracles au pays de Canaan. Puis une évocation des plaies d'Égypte. Il envoie les ténèbres, tout devient ténèbres, nul ne résiste à sa parole. Il change les eaux en sang et fait périr les poissons. Des grenouilles envahissent le pays, jusque dans les chambres du roi. Il parle et la vermine arrive, les moustiques sur toute la contrée. Animaux. Au lieu de la pluie, il donne la grêle, des éclairs qui incendient les champs. Il frappe les vignes et les figuiers, il brise les arbres du pays. La météo s'y met. Il parle et les sauterelles arrivent, des insectes en nombre infini. On voit encore aujourd'hui dans certains pays ce que ça peut donner, l'invasion de sauterelles. Il ne reste rien après leur passage. Qui mangent toute l'herbe du pays, qui mangent les fruits de leur sang. Ils frappent même les fils aînés du pays. Toute la fleur de la race. Il fait sortir les siens, par contre, Joseph, qui sort, Jacob va rentrer au pays, chargé d'or, d'argent et d'or, passant à flancher dans leur tribu. Et l'Égypte se réjouit de leur départ, car il l'avait terrorisé. Il étend une nuée pour les couvrir, la nuit un feu les éclaire, ça c'est la sortie d'Égypte, ils sortent, la nuit pascale. À leur demande, il fait passer des cailles, prothèses dans le désert, ils n'ont rien à manger. Il les rassasie du pain venu des cieux, c'est la manne. Il ouvre le rocher, c'est l'eau jaillie du rocher, l'eau jaillie, un fleuve coule au désert. Les épisodes du désert, exprimés de manière ramassée. Il s'est ainsi souvenu de sa parole sacrée et d'Abraham, son serviteur. Il a fait sortir en grande fête son peuple, ses élus, avec des cris de joie. Il leur a donné les terres des nations en héritage, le travail des peuples, pourvu qu'ils gardent ses volontés et qu'ils observent ses lois. La merveille que Dieu fait dans l'histoire, attention, il s'agit de lui être fidèle. C'est le dernier verset. Voilà, Dieu de ce psaume, on voit que le parcours dans l'histoire, qui connaît un peu la Bible, notamment le livre de la Genèse, le livre de l'Exode, est clair. Le genre, je prends le commentaire, c'est un psaume de genre didactique qui a visé le rappel de l'histoire pour enseigner, édifier le peuple qui va le prier. De forme hymnique, il évoque l'histoire sainte d'Abraham à l'entrée en Canaan, non tant pour en tirer des leçons dans une perspective de confession nationale, comme dans les longs psaumes 78-106. Dans ce psaume-là, on relie l'histoire pour mieux mesurer combien on a été infidèle à Dieu et demander pardon. C'est des psaumes qui relient l'histoire et au vu des errements, des rébellions, etc., on demande pardon à Dieu. Mais ici, c'est plutôt pour faire mémoire de la fidélité divine et en rendre grâce. Puis un petit mot sur les psaumes qui font un parcours historique, en général. Ces psaumes d'histoire orchestrent les principaux moments de l'épopée d'Israël. Je cite brièvement l'introduction au psaume dans la Tobe. Il y a un paragraphe qui est, je trouve, bien formulé. Tradition patriarcale dominée par la promesse de l'alliance. Exode, précédé et accompagné des merveilles. Marche dans le désert et révélation au Sinaï. Entrée en possession de l'héritage. Les psalmistes ne font pas qu'énumérer des faits bruts. Ils font ressortir leur signification. Les titres de gloire du Seigneur. Les témoignages de la fidélité, de la loyauté, de la patience et de la miséricorde de Dieu. On ne se contente pas de rappeler, de dire les choses, on s'exprime pour les qualifier, pour s'en émerveiller. Cette vue rétrospective commande des attitudes pratiques, ainsi que l'enseigne de Deutéronome. Ici, c'est notre dernier verset. Pourvu qu'ils gardent ses volontés et qu'ils observent ses lois. Des accointances avec d'autres textes datables situeraient la rédaction de ce psaume-ci à l'époque de l'exil ou juste après, et dans ce contexte, l'insistance sur la terre promise dès l'alliance abrahamique, puisque en exil on était privé de sa terre, au retour d'exil évidemment, on retrouve la terre dont on avait hérité suite aux promesses qui se sont réalisées. Le vocabulaire, souvenez-vous des merveilles qu'il a faites. Le psalmiste invite le peuple à se rappeler les œuvres divines, elles-mêmes commandées par la mémoire fidèle de Dieu. C'est lui le premier qui se souvient. Il s'est toujours souvenu de son alliance. Il s'est ainsi souvenu de sa parole. Que Dieu se souvienne, c'est une manière biblique d'exprimer, il est fidèle à son projet. Souvent, dans des prières, on dit « Souviens-toi, Seigneur, non seulement de ceux qui sont passés dans ta vie de défunt, mais aussi de ta propre promesse. » Le psalmiste nous invite à proclamer, annoncer, chanter, redire, pour rappeler les hauts faits, merveilles, puissances, prodiges, signes et miracles de Dieu. J'amène ici un peu les synonymes pour mesurer la richesse de vocabulaire du psaume. mais aussi ce dont il procède, sa puissance, l'engagement de sa parole, ses jugements, l'alliance dont il a eu l'initiative, la promesse qu'il a fait par ses membres, les lois qu'il a données. Les verbes aussi importent, il donna, il envoya, il dit, il frappa. Parmi ceux-ci, il y a ceux qui disent l'exode libérateur, ouvrir, faire sortir, émerger, mais aussi l'agir de Dieu contre l'opposant qui est châtié, brisé et qui perd. Il y a plusieurs manières d'entrer dans la composition, l'agencement d'un psaume. Hein, on peut voir le fil linéaire, mais on peut voir aussi, si je puis dire, la palette des couleurs, avec les registres de vocabulaire. Comme un peintre impressionniste, c'est tout différent. Un tableau de Léonard de Vinci, il avait essayé, il est construit de manière symétrique, rigoureuse, géométrique presque. Et puis, un tableau impressionniste a aussi sa logique propre, qui est différente, qui est par glissement des couleurs, d'une teinte à l'autre, l'harmonie des teintes. Et bien, il y a une harmonie aussi du vocabulaire. Il y a des touches différentes, des touches émerveillées, des touches éclairées, etc. La composition, si je prends maintenant dans le suivi du texte, le déroulement du psaume est simple. En bas de la page, je vous ai remis un peu le rappel des états. On voit bien que on commence par une invitation à la louange, les versets 1 à 6. 7, on affirme la seigneurie de Dieu, et puis on entre dans le récit de l'histoire. Avec le cycle des patriarches, il faut dire Abraham, Isaac, Jacob, etc., jusqu'à Joseph. Puis on se retrouve en Égypte, versets 23 à 36, avec l'émigration, le peuple qui s'accroît, l'élection de Moïse et d'Aaron, les plaies d'Égypte. Et puis la sortie d'Égypte, c'est tout l'exode, la sortie, la nuée protectrice, le don des cailles, la manne, l'eau, la fidélité à l'alliance avec Abraham. Et enfin, on termine sur le don de la terre, la terre promise. Je regarde là. Oui, sur le jeu des personnes. On commence sur le vous, c'est-à-dire en deuxième personne du pluriel, annoncé, chanté, redite. Voilà. Puis au verset 7, il y a, à un moment donné, le Seigneur, c'est lui notre Dieu. C'est-à-dire le psalmiste s'inclut. Il n'a pas simplement le vous de ceux qu'il invite à louer, en regard. Dans la liturgie, ça joue aussi le célébrant, tantôt parlant vous, tantôt parlant en nous. Par exemple, dans une formule d'absolution, le prêtre dit que Dieu vous pardonne vos péchés au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. À ce moment-là, c'est la parole du Christ que le prêtre dit au nom du Christ au pénitent, en s'adressant à lui en vous. Mais lorsqu'au début de la célébration eucharistique, on dit « Je confesse à Dieu Tout-Puissant » et à vous mes frères, ben, le prêtre dit aussi. Et il termine en disant, avec Dieu Tout-Puissant, « Nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés. » Il s'inclut dans la prière. Donc ce n'est pas, c'est la différence entre une formule, l'invocation à la miséricorde de Dieu qu'on fait au début de l'Eucharistie, ou bien la formule plus déclarative en vous, dans le sacrement de pénitence lui-même. C'est la même réalité, mais sentez, approchez un peu. Ceci pour dire, c'est une référence à quelque chose que vous connaissez bien, pour qu'on mesure que ce déplacement de personnes, qu'on passe du vous au nous, indique aussi un positionnement un peu différent du psalmiste. Puis alors il parle en troisième personne de Dieu, il s'est toujours souvenu de son alliance, promettre. Ah, et puis on raconte l'histoire troisième personne. Donc le long récit en il, eux, à l'enseigne de l'alliance d'Abraham, relie les étapes, etc. Et la fin récapitule joyeusement, il s'est ainsi souvenu, et en écho au thème initiaux, puisque Abraham, qui était en tête de liste, il voulait réapparaître à la fin. Et donc, les derniers versets sont une petite récapitulation joyeuse. Le psaume célèbre l'histoire favorisée du peuple élu, parmi les peuples, son peuple au verset 43, les peuples au verset 44, la recommandation éthico-spirituelle tirée du récit, c'est-à-dire l'éthique morale et spirituelle, le verset 45, autrement dit, se condense déjà un peu dans le verset 4. Cherchez le Seigneur et sa puissance, recherchez sa trêve, sa face. Là déjà, il y avait une invitation à se positionner vis-à-vis de Dieu. Sans reprendre l'alliance du Sinaï, il n'y a pas d'allusion au Sinaï et au don de la loi. Mais le récit préfère remonter à Abraham, qui, et c'est un fait notable, dans le psautier n'apparaît qu'ici et au psaume 47. Donc la figure d'Abraham est très rare dans les psaumes. Alors, dans la genèse de la conscience juive, bien sûr, Abraham, le patriarche, apparaît au livre de la Genèse, mais l'ampleur qu'il a prise dans la conscience juive et dans la prière juive a été progressive et peut-être assez tardive. C'est-à-dire, les psaumes sont écrits quand même entre le 10e et je dirais le 3e siècle avant le Christ. Alors, on peut estimer que les derniers à être rédigés, c'est sans doute post-exilique. Et Abraham était présent au peuple, mais pas encore de telle manière que les psaumes s'y réfèrent souvent. Mais dans le Nouveau Testament, Abraham, que ce soit dans l'évangile de Saint Jean, que ce soit dans les paroles de Jésus, etc., que ce soit promesse faite à Abraham dans le début de l'évangile de Luc, etc., Abraham est bien présent. Abraham, c'est avant Moïse. Et dans les écrits de Paul, Abraham est fortement sollicité. Pourquoi ? Parce que Abraham, d'abord, dans le temps, vient avant. Et Abraham est une figure rassembleuse pour le Nouveau Testament, rassembleuse non seulement du peuple juif, il est le père des patriarches juifs, mais il est le père de tous les croyants. En toi seront bénies toutes les nations de la terre. Donc, à la limite, plus que Moïse, Abraham était, dépositaire des promesses, une figure hospitalière à l'avance de tous ceux qui bénéficieraient du salut. Non seulement les Juifs, dont il est le père selon la chair, à travers la généalogie, mais aussi des nations. Et c'est pour ça que c'est dans ce sens-là que Paul, évidemment, insiste très fort sur Abraham et aussi pour souligner le fait que le bienfait qui nous advient dans le Christ, c'est le fruit des promesses faites à Abraham, et pas simplement de l'observance de la loi de Moïse. Il faut comprendre que le Christ nous fait miséricorde au-delà ou en deçà de nos incapacités à observer la loi, en raison des promesses faites avant à Abraham. Et donc, c'est progressivement que la figure d'Abraham a émergé dans la conscience des Juifs, dans l'évangile de Jean, mais nous avons pour père Abraham, hein, ça le disent quand même, parce que Abraham avait aussi l'avantage d'être le patriarche, ceux qui ont suivi le cours sur la Genèse se souviendront peut-être de ça, d'être le patriarche qui avait d'avance déjà parcouru tous les lieux de la terre promise avant d'y aboutir. Donc c'était une figure aussi rassembleuse pour la conscience du peuple. Je n'en dis pas plus. Mais c'est pour expliquer qu'il n'y a pas à s'étonner outre mesure que les psaumes ne fassent pas encore tellement émerger la figure d'Abraham telle que la conscience en est accrue plus tard et à l'approche du Christ et éminemment dans le Nouveau Testament.
Mais dans l'ordre, tout le matin, on prie,
hein? Oui.
Dans les cantiques de Zacharie.
C'est ça, dans les cantiques de Zacharie, justement, la figure d'Abraham est importante. Hein. Les promesses faites au Père, d'Abraham et de sa race à jamais. Alors, dans la liturgie chrétienne, justement, les lectures christiques et ecclésiales du psaume voient l'Église, peuple de Dieu joyeux de la joie pascale, rendre grâce pour les merveilles accomplies dans le Christ mort et ressuscité pour le salut de l'Église. En Christ, le chrétien hérite des promesses faites à Abraham, Isaac et Jacob. La veillée pascale médite particulièrement l'œuvre libératrice de la sortie d'Égypte. Ça, c'est sûr que la sortie d'Égypte, le récit d'Exode, etc., ça, c'est un des piliers de la veillée pascale. L'introduction et la raison du sautier de la ville de Jérusalem. Écoutons le merveilleux récit de l'histoire d'Israël. Ces événements prophétiques annonçaient les réalités que nous possédons aujourd'hui dans le Christ et dans le sacrement de l'Église, le baptême, la sortie d'Égypte, et l'Eucharistie, il est quand même question de la manne, le pain des cieux, verset 40. Pourtant, de bienfaits de Dieu en faveur de son peuple, rendons-lui grâce. Dieu éternel et tout-puissant, ce que tu as commencé pour nos pères, en Abraham, en Joseph et en Moïse, sous l'ombre des figures, tu l'as accompli en Jésus dans la lumière de la vérité. Donc les figures, c'était encore une longue des choses qui viennent maintenant en pleine lumière. Et tu le continues sans cesse pour nous dans ton Église. Fais-nous passer des prisons du péché à la terre promise de ta grâce. Donc on relie spirituellement la libération d'Égypte, comme pas simplement une libération physique, une libération spirituelle, des prisons du péché à la terre promise de la grâce. Donne-nous l'eau vive de ta parole et le pain du ciel. Et nous rendons grâce pour tes merveilles. Je vous invite à prendre une seconde la page 37 et puis nous lirons ensemble la page 38-39 en guise de petite conclusion. La page 37, c'est simplement un petit tableau, c'est l'écriture du père Potier lui-même il y a 35 ou 40 ans, au début de notre parcours. Il avait, au moment où on faisait de l'hébreu ensemble, il avait fait le tableau, la liste des psaumes tels qu'ils sont priés dans l'office. Et le fait, ça nous a aidé à savoir, quand on voulait commencer à prier des psaumes de l'office en hébreu, j'ai fait, pas pour tous, parce que certains sont compliqués, mais pour un certain nombre de psaumes importants, ça nous aidait à savoir quel psaume on prenait ce jour. Vous voyez, il y a 4 semaines, dimanche 1, dimanche 2, dimanche 3, dimanche 4. Le psautier est distribué en 4 semaines. Je fais simplement deux remarques. Vous voyez qu'au dimanche 1, c'est le démarrage du cycle, mais c'est normal, on commence par les 3 premiers psaumes. Et puis on ne s'étonnera pas que le dimanche intervienne à l'office du soir, comme je le dis, chaque fois le psaume 110. Donc c'est la quatrième ligne. Il y a l'office des lectures, puis l'office de l'aude, l'office de midi et l'office du soir. Le psaume 110, le Seigneur a dit à mon Seigneur siège à ma droite, il intervient immanquablement chaque fois à l'office du soir, de 4 dimanches, par exemple. Voilà. Le psaume, et vous voyez qu'à l'office de midi, on a quand même des psaumes tels que le dimanche 1, 149, le dimanche 2, 150, dimanche 3, 148, et puis le dimanche 4, de nouveau 150. C'est des psaumes exultants de la fin du psautier qu'on a lu. Ça convient bien pour la joie pascale du dimanche. Alors, le vendredi, je prends un autre jour assez typique, car la célébration de la Passion du Seigneur, on ne s'étonnera pas de trouver chaque fois le psaume pénitentiel de David dans l'office du matin, le psaume 51, le Miserere, pitié pour moi, Seigneur en ta bonté. C'est le psaume de contrition de David qui vient chaque vendredi matin. Et puis qu'au vendredi de la troisième semaine, par exemple, le tableau à gauche en bas, le vendredi de la troisième semaine, vous interviennent les deux psaumes qui sont priés pour la Passion, qui interviennent dans la Passion, qu'on a lu, le psaume 69 le matin et le psaume 22. Mon Dieu, pourquoi tu as abandonné ? Il est prié à l'office de midi du vendredi. Il prépare à méditer la Passion dans la prière. Voilà, c'est deux remarques, bien sûr, mais vous pouvez la garder pour mémoire, comme ça. Alors, nous lisons, je commande brièvement, les passages 38 et 39. J'ai remis trois, en guise un peu de synthèse, si vous voulez, de mon parcours, trois extraits d'auteurs importants. De Chouraki, André Chouraki, en quel endroit quand même des traductions, des commentaires, très attaché à la tradition juive, il était maire de Jérusalem, Hein. Et puis Paul Beauchamp, c'est toujours un style un peu plus difficile. Et puis Joseph Gélineau, l'auteur, la traduction du Psautier de la Bible de Jérusalem, auquel je me suis souvent référé, cette petite André Chouraki, dans son livre intitulé Louange, c'est-à-dire c'est le titre des psaumes en hébreu, hein, dans un liminaire, une préface, il y a quelques mots très riches. Depuis bientôt 2 millénaires, les couvents chrétiens et les ghettos juifs se rencontrent ainsi mystérieusement en cette garde d'amour pour psalmodier ici en latin pendant des siècles dans les couvents, là en hébreu, j'écris, les hymnes des chantres d'Israël. Quelle saveur, quel pur diamant en lettres de ceux qui ne renoncèrent jamais aux paroles des lèvres même du psalmiste. Pour laisser qu'on a respecté le texte des psaumes. Pour qu'ils aient ainsi traversé toutes les nuits, toutes les guerres, mus par le fol espoir de voir un jour, au bout des ténèbres, luire la lumière d'un salut et d'une réconciliation. Il y a quand même un peu en tête la Shoah aussi, hein. Et bien dans la prière du psautier, juifs et chrétiens peuvent communier. Il faut trouver dans le livre lui-même le secret de cette sorte de miracle de la communication universelle qui s'accomplit grâce à lui. Car le livre des psaumes n'est qu'en apparence un volume de poèmes. Son vrai contenu initie à la connaissance du réel, à une sagesse et à une mystique. Il a bien sûr une richesse prophétique, mais il est plus que cela. Dans cette lumière, le chatoiement des 1000 versets du psautier, il y en a plus que 1000, hein, mais pour dire de nombreux versets du psautier, cette richesse trop lourde pour être portée, ces perspectives soudaines, il y a des surprises, des retournements, des étonnements, ouvertes sur la misère de l'homme ou sur sa gloire, sur sa terreur ou sur son amour, cette poésie souveraine, qui embrase les ciels et la terre et le shéol, qui parle au soleil, au serpent, à l'oiseau, et tutoie Elohim, au nom de Dieu. Ce déferlement des mots dont l'assaut nous surprend et nous bouleverse, les images sans nombre, tout s'harmonise en une construction d'une rigueur classique. La poésie se métamorphose en doctrine, le lyrisme se mue en architecture profonde et hiérarchie de la création, les mots perdent leur liberté désordonnée pour s'éclairer, pour s'appeler l'un l'autre comme les pierres d'un édifice. Ce qui veut dire, c'est qu'il y a dans les psaumes, à certains moments, des chatoiements, une profusion, mais en même temps, on a vu que plus d'un psaume est quand même bien construit. C'est pas un éclatement désordonné. Il y a une richesse, c'est, je crois, ce qu'il veut exprimer ici. Ainsi, les mystiques d'Israël lisent-ils les louanges, les psaumes, non pas comme de pieuses poésies édifiantes et consolantes, mais comme l'apocalypse des déferlements eschatologiques et des libérations messianiques. C'est-à-dire, voilà, la profondeur de chant des psaumes aussi à échelle du drame de toute l'histoire. Ce qui est dit dans les psaumes, c'est quand même, s'ils traversent des siècles, c'est quand même, ils sont porteurs. La crise du Covid, c'est une histoire tout à fait imprévue, et qui fait se reposer quand même des questions fondamentales, mais qui est le dernier maître de l'histoire, est-ce que c'est la science de l'homme, et comment devant des imprévus, je crois que c'est un peu ça aussi qu'il a en tête, et de nouveau comme juif, quand même, traverser la Shoah, pense à cela. Dans la lutte contre la bête, il y a quand même un combat réel, le psautier constitue pour eux la réserve des vraies armes du combat. Chaque verset, chaque mot est un clair, et chaque glaive a pouvoir de vie et de mort. Avant l'heure de la délivrance finale, le juste devait se familiariser avec la puissance des mots, comme le guerrier fourbit ses armes, pour y trouver le réconfort dans le jaillissement du verbe. Le psalmiste sait ce qu'il dit, il s'exprime toujours en style concret, avec une maîtrise et une économie de mots qui font de ce recueil un monument unique dans l'histoire des œuvres de l'esprit. C'est la manière dont Chouraki, qui a des plus styles, s'exprime dans son introduction à sa traduction des psaumes. Alors, Paul Beauchamp, je ne vais pas lire le texte d'abord parce qu'il est quand même un peu dense et difficile. Je vous résume la pointe. Donc, le modèle est l'unique. Un point important de son propos, c'est de dire ceci. Certes, le Christ a accompli la parole du psaume, par exemple, mes ennemis m'ont abreuvé de vinaigre, parole du psaume 69. Mais ça ne veut pas dire que le psalmiste avait consciemment en vue le Christ. Il décrit un juste et il décrit une des formes d'outrage, on abreuve quelqu'un de vinaigre. Mais au moment où, après avoir vu le Christ en croix, les chrétiens ont repris ce psaume, à ce moment-là, ils ont compris qu'il offrait des mots pour dire quand même quelque chose d'unique. Celui qui a été abreuvé de vinaigre de manière la plus dramatique, c'est le Christ. Et donc, Paul Beauchamp exprime que le Christ a eu un modèle dans les psaumes. On pourrait rétorquer, mais enfin, s'il est unique, il n'y a pas de modèle. Si, au sens où il y a eu, dès avant le Christ, bien sûr, des tas de figures, pour prendre un psaume d'aspect dramatique, hein, de figures de justes qui ont souffert. Mais lui, il est unique au sens où lui seul a rempli avec une telle intensité cet espace de souffrance écrite. Au contraire, pour des psaumes de louange, seul le Christ a pu habiter la louange du Père avec une intensité insurpassable. Mais déjà, ces psaumes étaient écrits avant que le Verbe prenne chair. Autrement dit, il n'a pas dédaigné d'épouser à la fois notre expérience dramatique et émerveillée et d'épouser notre langage, qui était la langue hébraïque du peuple élu, pour en faire sa propre prière et la remplir de manière unique. De son contenu, de son vécu. Et dès lors, nous pouvons ressaisir à notre tour comme chrétiens les psaumes, en tant qu'ils ont donné à la limite des mots au Christ pour sa propre prière, mais qu'il les a remplis et investis de sa présence, tel que nous pouvons, on l'a vu souvent, les prier de manière chrétienne, appropriée dans le Christ et dans l'Église. Enfin, je redis à ma manière un des accents de ce que je crois Paul Beauchamp exprime dans ce passage. Je vous laisse le texte pour que vous puissiez le relire si vous le souhaitez. Alors je termine, vous avez encore 5 minutes ?
Oui.
Je termine par Joseph Gélineau, qui est un bon pédagogue. Il a une ample introduction à son psautier de la Bible de Jérusalem, même s'il ne s'est pas contenté de 2 pages, c'est bien. Et il nous dit notamment, il y a 3 manières de prier des psaumes. Une manière de dire les choses, mais ça apporte une perspective. Pour être pratique, dit-il, résumons les diverses manières dont on peut traditionnellement prier les psaumes. On peut les ramener commodément à 3 attitudes. Première attitude, je reprends à mon compte la prière du psalmiste comme telle. Et par elle, je m'adresse à Dieu, considéré sans autre détermination que celle que lui attribue le psaume. Donc je me coule dans les mots de la perspective du psaume. Exemple, des profondeurs de ma misère de pécheur, je crie vers toi, Seigneur, le vrai Dieu qui sauve et pardonne. Je ne suis pas nécessairement dans les profondeurs d'un cachot, mais je suis peut-être dans les profondeurs de ma misère spirituelle. Cette manière qui suit le sens littéral, je reprends les mots, je me coule un peu dans la prière du psalmiste, est toujours possible, sauf quand il s'agit de réalités historiques ou morales devenues caduques sous la nouvelle alliance. C'est-à-dire qu'il y a des termes des bêtes de Bachan en cercle, mais je ne suis plus à l'époque un pays de Palestine où on voit ce que veulent dire des bêtes de Bachan. Des vaches vigoureuses là, et parfois un peu haineuses. Ou bien des réalités morales devenues caduques, mais fracassées contre l'Europe. Il y a quand même quelques versets qui, dans le psautier, sont mis entre crochets pour qu'on ne prie pas trop, parce que, je dirais, la conscience morale, le peuple élu, a dû cheminer aussi. Et on ne s'exprime plus comme ça aujourd'hui. Donc on ne peut pas les prier sans plus de manière littérale comme d'autres versets. Ça, c'est la petite réserve qu'il exprime à la fin, bien sûr. Deuxième attitude. Je lis le psaume au nom de l'Église ou de l'Assemblée liturgique, ou bien à mon nom, et je l'adresse au Christ. Pas simplement à Dieu, au Père, mais je l'adresse au Christ. Notre Dieu et Seigneur. Ou bien je l'entends du Christ. Exemple, pitié pour moi, c'est la communauté ecclésiale, ou bien moi seul qui peut dire ça, je prie. Pitié pour moi, Seigneur, David disait mon Dieu, moi je peux dire Seigneur en pensant au Christ aussi. Hein? Seigneur, Dieu, en ta bonté. Il était quand même le visage de la bonté du Père pour nous, ta bonté de rédempteur. Je suis doux et humble de cœur, c'est quand même lui le bon pasteur. Donc je reprends les mots du psaume, mais je fais le chemin de l'appropriation christologique et ecclésiale. Pitié pour moi, Seigneur Jésus, en ta bonté, ou bien en la troisième personne. L'amour du Seigneur, à jamais je le chante, et l'amour du Seigneur, je peux désormais le recevoir comme perçu dans l'amour du personnel du Seigneur Jésus. Cette manière est habituelle dans la liturgie, sauf pour les psaumes traditionnellement mis dans la bouche du Christ, puisque je m'adresse à lui ici. C'est une image différente de reprendre un psaume que je me dis que c'est lui qui le prie. C'est la troisième attitude. Je lis les psaumes au nom du Christ, considéré comme le psalmiste. C'est le Christ qui dit le psaume. Hein? C'est une manière d'entrer dans le psaume. Soit le Christ individuel, soit le Christ total, embrassant la prière de toute l'Église et la mienne propre. Et cette prière s'adresse au Père. Exemple, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ça, c'est vraiment, je le médite, comme prié par Jésus lui-même qui prie le psaume. Ou bien, « la droite du Seigneur a fait prouesse, sa droite m'a relevé. » C'est la manière dont le Christ ressuscité, après un temps des apparitions, ou dans l'éternité du Père, peut prier et dit ce psaume d'une manière nouvelle, sa droite m'a relevé, il m'a ressuscité. Cette manière est spécialement utilisée pour célébrer les mystères du Christ au cours du cycle liturgique. Alors presque tous les psaumes se prêtent à ces trois façons de prier, mais souvent la liturgie ou la tradition a fait des choix entre elles pour un psaume déterminé et il est bon de s'y tenir. C'est-à-dire que tantôt on a fait le choix de le prier littéralement, tantôt de manière plus christique, tantôt de voir que c'est le Christ qui le prie dans la tradition chrétienne et dans la liturgie. Quand le psaume intervient dans les lectures du jour, eh bien, il y a des manières différentes, on ne se rend pas compte. On s'y associe, mais ces trois manières sont en jeu en fonction des textes qui l'environnent. Le psaume de ce matin, c'est en fonction de la naissance de Jean-Baptiste qu'on ressaisissait le psaume quand une leçon des méconnus. A noter enfin qu'on ne pourrait, dit-il, sans artifice, utiliser simultanément les deux dernières manières, c'est-à-dire soit on s'adresse au Christ, soit on entend le Christ qui prie le psaume. On va faire les deux en même temps, si j'ai envie de le dire. Voilà, ça paraissait être trois extraits de style, de genre, de tempérament différents, mais qui chacun porte un regard un petit peu et donne des notes d'ensemble sur le psautique. Voilà, merci de votre attention. Merci.